إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. D'après Abi Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « On compte certes parmi les paroles que les gens ont héritées de l'ancienne prophétie, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. » Rapporté par al-Bukhari. Ceci est donc le 20e hadith mentionné par l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous mentionne une parole de l'ancienne prophétie, c'est-à-dire une parole qui a été dite par les prophètes avant lui, alayhim salatu wa salam. C'est-à-dire que cette parole, elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à ce qu'elle arrive au sein de la communauté musulmane. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné ensuite cette parole. Si tu n'as pas de pudeur, alors, fais ce que tu veux. Ceci est donc la parole que les gens ont héritée de l'ancienne prophétie. Et la pudeur, certains l'ont définie comme étant la gêne que l'on ressent par peur d'une chose pour laquelle on peut se faire blâmer. D'autres ont dit que la pudeur est un comportement qui pousse à délaisser tout acte vil et honteux et qui empêche d'avoir des manquements vis-à-vis de toute personne ayant un droit sur toi. Et la pudeur, c'est un comportement qui est louable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans un autre hadith: la pudeur tout entière est un bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous dit dans ce hadith: si tu n'as pas de pudeur. Et les savants ont expliqué que cette phrase sous-entendait différents sens. Le premier sens, c'est-à-dire celui qui n'a pas de pudeur, alors il ne se soucie pas de ses actes. Et il fait ce qu'il veut car il n'est pas gêné. Il se moque des choses qui sont répréhensibles ou qui sont blâmables. Il fait ce qu'il veut, dans le sens qu'il ne se soucie pas d'accomplir un acte qui est au contraire à la bienséance. Et certains gens de science ont dit que ceci est en réalité une menace. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « I'amalu ma shi'tum, innahu bima ta'amaluna basir. » Faites ce que vous voulez, car il voit tout ce que vous faites. Donc ceci, certains savants ont dit que c'était une menace. C'est-à-dire que la personne, qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle accomplisse ce qu'elle veut comme acte, mais elle rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala et elle sera rétribuée pour ses actes. Donc selon le premier sens, c'est simplement une information que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la personne qui ne fait pas preuve de pudeur, alors généralement tu la verras faire ce qu'elle a envie. Elle fait ce qu'elle veut comme acte et ne se soucie pas des bienséances. Et certains savants ont précisé que ceci était en réalité une menace. C'est-à-dire que la personne qui accomplit ce qu'elle veut et qui ne fait pas preuve de pudeur, alors il faut qu'elle sache qu'elle sera rétribuée pour ses actes. Ensuite, d'autres savants ont dit que le sens de ce hadith est que si l'acte que tu souhaites accomplir n'est pas un acte de laquelle la personne doit avoir honte, alors tu peux l'accomplir et il n'y a pas de mal en cela. Dans le sens que si cet acte n'est pas un acte honteux, n'est pas un acte indécent, alors tu peux le faire et il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Donc, d'après le premier sens, on interprète ce hadith, selon l'auteur, de l'action. Et le deuxième sens revient à l'acte en lui-même. Fasna'am shit, alors fais ce que tu veux, c'est-à-dire, dans ce sens-là, fais ce que tu veux, c'est une permission d'accomplir cet acte. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'informe ici que s'il y a un acte qui n'est pas honteux, qui n'engendre pas de la gêne et qui n'est pas un acte indécent, alors il est permis pour toi de le faire. Et selon le premier sens du hadith, comme on l'a dit, c'est un blâme et une menace. Car si la personne accomplit ce qu'elle veut, cela veut dire qu'elle n'a pas de pudeur. Et des gens de science ont mentionné que ceci est une façon de sévèrement blâmer ce comportement. C'est-à-dire la personne qui fait ce qu'elle veut et ne se soucie pas des règles de bienséance et parle et œuvre sans aucune pudeur. Alors il faut qu'elle sache que le délaissement de la pudeur est bien plus grave que les actes qu'elle accomplit. Ceci attire donc notre attention sur l'importance de la pudeur et c'est un encouragement pour le musulman à se parer de ce noble comportement. Ceci est une explication concise et résumée de ce hadith. Et on va voir maintenant, inshallah ta'ala, quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Premièrement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que les récits des communautés qui nous ont précédés peuvent rester jusqu'à être transmis au sein de notre communauté, comme c'est le cas de cette parole que l'on vient de voir dans ce hadith. Et ce qui est rapporté des communautés précédentes, il nous parvient par la révélation, c'est-à-dire soit par le Coran ou bien par la Sunna. Également, cela peut nous parvenir d'après ce que les gens se transmettent les uns des autres de génération en génération. Parmi les exemples de ce qui est venu dans le Coran, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'la, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Vous préférez plutôt la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuillets anciens, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Donc ceci est une chose qui est venue chez les communautés qui nous ont précédés et qui est mentionnée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce qui nous est parvenu dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce hadith ainsi que de nombreux autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte des récits des communautés précédentes et ce afin que l'on en tire des leçons et des enseignements. Donc, ce qui est venu dans le Coran et ce qui est venu dans la sunna, ceci ne pose aucun problème quant à son acceptation. Mais ce qui est rapporté des gens au sujet des communautés qui nous ont précédés, ou alors ce qui est rapporté des prophètes, alayhim salatu wa salam, qui ont précédé notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceci se divise en trois catégories. La première catégorie, c'est ce dont notre législation a attesté et affirmé de sa validité. Alors ceci est valide et accepté, comme ce qui est mentionné dans ce hadith, ou alors comme ce qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on vient de lire de Surat Al-A'la. La deuxième catégorie, c'est ce dont notre législation a attesté de sa fausseté. Alors ceci est faux et rejeté. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui nous parviennent des communautés qui nous ont précédés, comme des gens du livre, et que ceci s'oppose à notre législation, et que notre législation est venue l'abroger, l'annuler, alors ceci est faux et rejeté, ce n'est pas mis en pratique. La troisième catégorie, c'est ce qui n'est pas mentionné dans notre législation, et que notre législation n'a ni soutenu ni annulé. Alors, ce qui est plus juste ici, c'est de s'abstenir de se prononcer à son sujet. C'est-à-dire, nous ne les acceptons pas et nous ne les rejetons pas, mais nous nous abstenons à leur sujet. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet des récits qui sont rapportés des enfants d'Israël. Car il se peut qu'il vous rapporte une parole vraie et que vous la rejetiez, ou une parole fausse et que vous l'acceptiez. Donc, le musulman, tout ce qui vient des communautés qui nous ont précédés, qui n'est pas confirmé dans notre législation et qui n'est pas rejeté dans notre législation, il s'abstient de se prononcer à son sujet. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est cette parole immense qui est venue des prophètes qui ont précédé notre prophète, alayhimu salatu wa salam. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Et cette parole, elle vient des communautés précédentes. Et c'est une parole qui est immense et qui est remplie de bénéfices, car elle nous enjoint de nous parer de ce noble comportement, le comportement de la pudeur, qui, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, est le meilleur des comportements Le plus noble des comportements est le comportement à la valeur la plus immense et c'est celui qui est le plus profitable. Et comme on va le voir, il a dit ça, rahimahullah ta'ala, car la pudeur, elle amène au bien. Troisièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a un encouragement à faire preuve de pudeur. Et ce car la pudeur, c'est une des branches de la foi. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la foi comporte entre 73 et 79 branches. La plus haute est la parole « La ilaha illallah ». La plus basse est de retirer un objet gênant de la route et la pudeur fait partie de la foi. Ce hadith, donc, il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. La pudeur, c'est donc une branche parmi les branches de la foi. Et il faut savoir qu'elle est de deux sortes. La première sorte de pudeur, c'est celle qui est liée au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième pudeur, c'est celle qui est liée au droit des créatures. Quant à la pudeur, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à l'égard de son droit subhanahu wa ta'ala, qui est de l'adorer seul, sans ne lui donner aucun associé. Alors il faut savoir qu'il est obligatoire pour le musulman de faire preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de l'ensemble de tes faits et gestes. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui apparaît de toi, mais il sait aussi ce que tu caches. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu caches au fond de ta poitrine. Il connaît tes intentions et il sait aussi ce que tu fais lorsque tu te trouves seul à l'abri du regard des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala t'observe en tout moment et en tout lieu. Si le serviteur a conscience de cela, il lui est alors obligatoire de faire preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois faire preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Et cette pudeur, elle doit te pousser à accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et à t'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit, selon les sens rapprochés de sa parole, à partir du moment où le serviteur sait que le Seigneur l'observe, cette connaissance, elle va engendrer en lui une pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais qu'Allah t'observe, alors tu vas faire attention à l'ensemble de tes faits et gestes. Tu vas prendre garde à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, tu vas prendre garde à ne pas délaisser ses ordres et les accomplir de la meilleure manière. Donc cette pudeur, elle va te pousser à quoi? Elle va te pousser à la bienfaisance, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et on a déjà parlé de cela dans un précédent hadith. Le deuxième type de pudeur, c'est la pudeur vis-à-vis des créatures. Et celle-ci, elle implique de toi que tu délaisses tout ce qui s'oppose à la bienséance et au bon comportement. À titre d'exemple, il fait partie de la pudeur que l'homme ne prononce avec sa langue que des propos convenables. Tu dois donc purifier ta langue de toute mauvaise parole, de tout propos indécent et de toute parole inconvenable. Car ceci s'oppose à la pudeur qui nous a été ordonnée. Ainsi, tu verras que celui qui n'a pas de pudeur, il est vulgaire dans ses propos. Il est indécent. Il ne fait pas preuve de pudeur et il parle de tout, même des choses desquelles l'homme a honte de parler et même d'écouter. Par son manque de pudeur, il met ceux à qui il s'adresse dans la gêne de ses propos. Il gêne les croyants lorsqu'il parle ainsi. Ils ont honte de l'écouter. Ils vont donc le conseiller afin qu'il se corrige. Il fait partie des bons comportements pour l'homme de parler modérément, en employant des belles paroles, sans crier et sans se faire remarquer, et à plus forte raison pour les femmes musulmanes. Et les exemples de manque de pudeur, ils sont très nombreux à notre époque et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rectifier l'ensemble de nos comportements. Ensuite, sous un autre point de vue, la pudeur se divise aussi en deux catégories. Il y a la pudeur qui est naturelle et il y a la pudeur que la personne obtient suite à des efforts. La première catégorie donc, qui est la pudeur naturelle, c'est celle dont Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce à certains de ses serviteurs. Et tu verras certaines personnes qui sont pudiques dès leur plus jeune âge.
qui ne parlent que par nécessité, qui n'agissent que par nécessité et se préservent de toute parole et de tout acte, vil ou inutile. Pourquoi? Car il est pudique. Il se préserve d'accomplir une chose qui est blâmable. Donc, il se retient de parler et il fait attention à l'ensemble de ses faits et gestes. La deuxième, c'est celle que tu vas obtenir en contraignant ton âme à la pudeur, en t'entraînant à cela. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme on l'a dit, qui ne sont pas pudiques, ni dans leurs propos, ni dans leurs actes. Puis, il va fréquenter certaines personnes qui sont pudiques, qui font preuve de pudeur. Il va alors profiter de leur comportement et ceci va l'encourager à lui aussi faire preuve de pudeur. Car il va voir que les gens le reprennent lorsqu'il prononce des propos inconvenables. Il va voir que les gens vont le reprendre lorsqu'il accomplit certains actes qui sont des actes qui sont indécents ou impudiques, qui sont des actes qui s'opposent à la pudeur. Alors, ceci va le pousser à lui aussi faire preuve de pudeur. Et il y a en cela, mes frères, un encouragement pour le musulman à choisir comme compagnons les compagnons vertueux. Ceux qui te poussent au bien. Ceux qui, lorsque tu les fréquentes, leur fréquentation, elle te pousse à te rapprocher de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui, lorsque tu les fréquentes, leur fréquentation, elle te pousse à t'accrocher à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui, lorsque tu les fréquentes, ils te poussent à agir et à te parer des nobles comportements qu'est venu légiférer notre religion, qui est la religion de l'islam, la religion des nobles caractères. Donc le musulman, il choisit comme compagnon le bon compagnon, celui qui l'incite au bien, celui qui l'incite à la piété, celui qui l'incite à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, il faut savoir, comme on l'a dit, que la pudeur est un comportement louable. Cependant, il faut savoir que si cette pudeur, elle t'empêche d'accomplir une obligation, ou alors c'est une cause pour te faire tomber dans un interdit, tu dois savoir que ceci est blâmable. Comme par exemple, le fait que cette pudeur, elle t'empêche d'interdire le mal ou de commander le bien lorsque ceci est obligatoire pour toi. Alors ceci est un comportement qui est blâmable. Et en réalité, ce n'est pas de la pudeur. Cela ne s'appelle pas de la pudeur, mais c'est plutôt de la faiblesse ou de la lâcheté. Car si tu délaisses ton obligation et que tu délaisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé, alors que ceci est obligatoire pour toi, comme le fait qu'une personne accomplisse un péché devant toi et qu'il t'incombe de lui interdire, ou qu'une personne délaisse une obligation devant toi et qu'il t'incombe de lui ordonner, si tu fais cela et prétends faire cela par pudeur, sache qu'en réalité, tu as fait preuve de faiblesse et de lâcheté. Et également, cette pudeur, elle n'empêche pas d'apprendre la religion. Car certaines personnes, elles ont du mal à poser des questions au sujet de la religion. Et ceci est une erreur. En effet, il est rapporté dans un hadith que Salama radiallahu ta'ala anha est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Certes, Allah ne se gêne pas de la vérité. » Puis elle lui a posé une question sur une chose qu'en d'autres temps, la personne va être gênée de parler de ces sujets. Mais dans le cadre de la religion, dans le cadre de connaître le licite et l'illicite, dans le cadre de connaître l'obligation et l'interdiction, il est permis de poser cette question et ceci ne s'oppose pas à la pudeur. Car celui qui ne pose pas ces questions, comment va-t-il apprendre sa religion? Et c'est dans ce sens que Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit au sujet des femmes des Ansar, « Quelles merveilleuses femmes que sont les femmes des Ansar, la pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre leur religion. » Et certains salafs, rahimahumallahu ta'ala, ont dit, « Deux n'obtiendront pas la science. Deux n'obtiendront pas la science. Celui qui est timide est l'orgueilleux. » Celui qui est timide, pourquoi il n'apprendra pas la science? Car il va être dans une assise de science, mais il va avoir honte de poser des questions. Ainsi, il va perdre un grand bénéfice de ses assises. Il va lui arriver une chose qui est une chose dont il ne va pas parler dans ses assises, car ce sont des choses intimes ou des choses gênantes. Mais il a besoin de connaître leur jugement. Il ne va pas poser la question. Il ne va pas interroger à ce sujet. Et ceci est une erreur. Et il ne pourra pas apprendre la science comme ça. Et s'il ne peut pas, ou s'il a un excès de pudeur qui l'empêche de poser la question lui-même, alors qu'il envoie une autre personne poser la question pour lui, s'il souhaite rester anonyme. Comme l'a fait Ali radiallahu ta'ala anhu, qui, par pudeur envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était marié à sa fille Fatima radiallahu ta'ala anha, il a envoyé un des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une chose intime, car il avait honte d'aller interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci ne l'a pas empêché d'apprendre sa religion. Il a envoyé quelqu'un poser la question à sa place. Également, on voit dans ce athar, dans ce récit des salafs, le deuxième type de catégorie qui n'apprendra pas la science et n'obtiendra pas la science qui est-ce ? L'orgueilleux. Celui qui est orgueilleux. Qui se pense au-dessus des autres. Il ne s'assoit pas dans les assises de science car il pense qu'il n'y a pas de différence entre son frère qui lui enseigne et lui-même. Il pense que sous prétexte qu'il a lu un de livres, il n'a plus besoin de son frère. Il n'a plus besoin de son enseignant. Il est au-dessus de lui ou il a le même niveau. C'est un homme et je suis un homme. Il lit des livres, je peux lire des livres aussi directement. Celui-ci, il ne pourra pas apprendre la science. Car son orgueil, il va le pousser à mépriser la vérité. Et ceci est un grand danger. Donc, on a dit que la pudeur, c'est un comportement louable, mais qui peut pousser, parfois, à avoir certains comportements blâmables. Et dans ce cas-là, le musulman, il doit se corriger. La pudeur, donc, c'est un comportement aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un comportement qui fait partie de la foi. La pudeur est une des branches de la foi. Le musulman, il doit donc faire des efforts pour se parer de ce comportement. Et il doit faire attention que ceci ne le pousse pas à délaisser une obligation ou alors à commettre un interdit. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la personne qui n'a pas de pudeur, il fait ce qu'il veut et il ne prête aucune attention aux règles de bienséance. Et ceci s'oppose à la pudeur. Le fait que la personne accomplisse ce qu'elle a envie sans prêter attention et sans donner d'importance aux règles de bienséance, ceci nous indique donc un manque de pudeur. Un manque de pudeur envers les gens, mais aussi un manque de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, celui qui ne fait pas preuve de pudeur à l'égard des gens, il ne fait pas preuve de pudeur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est en public parle mal, prononce des mots grossiers, prononce des paroles indécentes. Alors, que penses-tu qu'il fait lorsqu'il est seul et qu'il est à l'abri du regard des gens? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer aussi bien en public qu'en secret. Et ceci, comme on l'a dit, c'est un comportement blâmable. Et ce comportement, il mène à la mort du cœur. Le fait que la personne œuvre sans donner d'importance aux règles de bienséance, au bon comportement, aux choses qui sont acceptables, aux bonnes mœurs, ceci conduit à la mort du cœur, comme l'a dit Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Celui qui fait preuve de peu de pudeur aura peu de scrupules, et celui qui a peu de scrupules, alors son cœur mourira. » Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith, selon son deuxième sens, que s'il y a un acte qui n'est pas indécent et que c'est un acte que les gens ne sont pas gênés d'accomplir publiquement, alors ceci nous indique la permission de cet acte. C'est-à-dire, si tu n'as pas honte de faire une chose, alors tu peux l'accomplir. S'il y a un acte qui est approuvé par les gens, que les gens ne considèrent pas comme une chose blâmable, dont les gens ne sont pas gênés, alors ceci nous indique la permission de cet acte. Bien sûr, on parle ici des gens vertueux, des gens pieux, des gens qui se soumettent à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si la personne se retrouve dans une société où la perversité est apparente, où les mauvaises mœurs sont apparentes, où les grands péchés sont accomplis publiquement, il ne faut pas croire que ceci indique la permission de ces actes. Mais ceci reste des actes qui sont honteux, des actes qui sont indécents, des actes qui sont les œuvres des gens qui manquent de pudeur et c'est ceci qui les a poussés à accomplir ces actes publiquement. Mais lorsqu'on dit que l'acte dont la personne n'est pas gênée, alors ceci nous prouve sa permission, on parle bien sûr en cela des gens pieux et des gens vertueux. Enfin, sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la réfutation à la parole des Jabriya. Car les Jabriya, ils ont dit que l'homme ne décide pas de ses actes, qu'il n'a aucun libre arbitre et qu'il n'a pas le choix de faire ou de ne pas faire. Et comme vous le voyez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que l'homme avait une volonté. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Ceci nous montre donc que l'homme a une volonté. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.